Bonsoir, frères et sœurs. Ce soir, nous allons parler d'une phase nouvelle. Nous avons vu que dans le passé, il y a eu divers mouvements évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, tout ce qu'on voudra, et ils ont surtout apporté un changement sur le plan personnel. Cela a apporté dans beaucoup de vies une nouvelle relation avec leur Dieu, une relation qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Et maintenant est arrivée l'heure d'un changement, du renouvellement sur le plan collectif. Ce soir, nous allons parler de l'Église de Jésus-Christ. Nous allons pas du tout parler des Églises. Nous allons parler de l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais commencer par vous rendre attentif que dans la Bible, nous avons un concept global de Dieu pour ce monde, pour l'humanité, aussi pour le monde surnaturel. Et puis, cette pensée biblique, ce concept global, ça j'aimerais que vous en teniez compte dans tout ce que nous allons dire, parce que c'est important. Jusqu'à maintenant, on n'en a plus assez tenu compte de tout cela. Ce concept biblique, c'est un concept d'harmonie. C'est un concept, je dirais, de perfection, de beauté même, d'équilibre. Il n'y a pas rien que les francs-maçons et tout ce genre de peuple-là qui croient à l'harmonie. Il y a l'harmonie dans la parole de Dieu et dans ce que Dieu a en pensée et en plan pour ce monde. Et nous allons aussi parler de relations, de communication, nous allons même parler d'unité, nous allons parler de communion. Et tout cela concernera le monde spirituel, le monde matériel et physique, et puis nous, l'homme. Hein. Alors, nous voyons dès le départ dans la Bible, si vous lisez Genèse, le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hein. Et de ce que je connais maintenant de mon Dieu, de ce que je connais de sa nature, je sais qu'au commencement, il a créé les cieux et la terre, il les a créés belles, bonnes, parfaites. Mais entre le verset 1er et le verset 2, il y a eu quelque chose. Et si vous lisez le texte, notre version seconde nous dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Si nous regardons le texte hébreu, normalement il faudrait traduire « La terre devint informe et vide. » Vous pouvez demander, ceux qui connaissent l'hébreu, normalement il faudrait traduire « Elle devint informe et vide. » Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Entre le verset 1er et le verset 2, se sont écoulés peut-être ces millions d'années là qui nous manquent des fois quand on fait l'analyse au carbone 14, etc., qui semblent se contredire avec, donner une contradiction entre l'enseignement biblique et l'enseignement dit scientifique. Alors, il y a eu là, dans le passé, entre le verset 1 et le verset 2, il y a quelque chose qui a provoqué le chaos. Il y a quelque chose qui a provoqué une déflagration sur ce monde, et nous le retrouvons plus loin, après, dans la Bible, où nous voyons ce qui est arrivé. Nous voyons qu'à un moment donné, un ange de lumière, Lucifer, s'est révolté contre Dieu, contre son maître. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, et cela a été la chute, la dégringolade, et cela a provoqué, à un moment donné, dans l'histoire de ce monde, a provoqué un chaos total. Et nous voyons à partir de ce moment-là l'intervention de Dieu qui commence déjà contre ce chaos. L'Esprit de Dieu qui se meut sur cette terre et il y a une création, une recréation si on veut. Alors, tout est basé dans le fin fond là-dessus. Ce désir de Dieu de recréer l'harmonie perdue, de recréer la communion perdue, de recréer quelque chose qui a été détruit par cette révolte. Et à partir de ce moment-là, nous voyons une confrontation entre deux royaumes. Nous voyons Satan révolté contre Dieu, sa royauté qui est déchue de sa position d'ange de lumière et qui a entraîné avec lui une multitude d'anges qui sont devenus les démons, qui sont devenus ces différentes autorités, ces différentes puissances dont il est question dans Éphésiens, qui sont dans les lieux célestes et contre lesquels aujourd'hui nous avons à lutter. Si ici sur cette région, si sur notre région, il y a encore des gens qui sont liés, qui sont retenus pour ne pas accepter l'évangile, on le doit à ces puissances-là, vous le savez. Alors, ces puissances-là, ils provoquent encore aujourd'hui, ils ont tendance à provoquer le chaos. Et alors, il essaye de diriger un royaume à lui. Qui, chose étonnante, je demanderai une fois au Seigneur quand je serai là-haut, je lui demanderai pourquoi. Actuellement, je ne sais pas pourquoi. Mais chose étonnante, actuellement, ce royaume, il est toléré encore. Ce royaume parallèle. Et là, il y a un tas de passages bibliques que je pourrais vous citer à l'appui. Nous voyons qu'actuellement, un royaume parallèle est toléré encore jusqu'à un moment donné de l'histoire. Et il fait tout. Le prince de ce royaume, il fait tout. Pour contrarier, pour contrecarrer les plans de Dieu aujourd'hui encore. Alors tout commence de s'expliquer à partir de là. Si nous avons le péché, si nous avons la maladie, si nous avons les guerres, si nous avons toutes ces choses terribles qui sont aujourd'hui dans ce monde, nous le devons à cette situation-là. Alors maintenant, nous voyons que dès la Genèse, nous voyons un plan de recréation, de régénération, de restauration. Et ce soir, nous allons parler à un moment donné, nous allons parler surtout de restauration. Nous voyons de la part de Dieu une intention de restaurer quelque chose qui s'est perdu, quelque chose qui a été déchu, qui a été détruit. Et depuis le début, on voit que Dieu, il s'est formé un plan, il s'est préparé un plan pour remettre les choses de nouveau à l'état. Alors nous voyons premièrement que dans ce rétablissement, Dieu, il se cherche un partenaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Il l'a posé là-dedans, dans cette situation. Et malheureusement, l'homme, il a failli très rapidement à la tâche qui lui était assignée. Mais Dieu voulait, en l'homme, il voulait un partenaire. Et alors, à partir de ce moment-là, nous voyons une chose assez étonnante. C'est qu'à partir de ce moment-là, si vous regardez l'Ancien Testament, vous voyez tout au long de l'Ancien Testament, vous voyez un plan, écoutez-moi bien, un plan sélectif de Dieu. Hors des différents peuples, à l'intérieur de ces peuples, il s'est choisi un homme. Pensez-y, chaque fois que vous rencontrez, vous entendez parler d'un Enoch, vous entendez parler d'un Abraham, vous entendez parler d'un Isaac, d'un Jacob, et après tout un peuple qui en est sorti, c'était toujours dans le prolongement d'un plan de sélection que Dieu s'était fixé. Alors, il avait en but, il avait toujours ce motif, ce but à atteindre, qui était le rétablissement de toute chose. Si vous lisez Actes 3, 21, Romains 8, 19 à 23, et dans d'autres passages, il est question justement du plan de Dieu en vue d'un rétablissement de toute chose. Et puis qu'est-ce que ce rétablissement allait comporter? Ça allait comporter en définitive la condamnation finale et totale de Satan. Vous le pouvez lire Colossiens 2, 14 et 15, 1 Jean 3, 8, Apocalypse 20, 2, 3 et 10. Vous voyez que un des points vers ce but final, c'était la condamnation finale et totale de Satan, et puis le rétablissement total aussi de la souveraineté de Dieu de nouveau sur ce monde, sur l'univers, sur nous tous. Vous lisez Éphésiens 1, 21, 23, 1 Corinthiens 15, 27 et 28. On en parlera encore à la fin de la soirée. Je vais très vite en avant, j'ai fait juste cette introduction qui était nécessaire pour vous faire comprendre. Alors, vous voyez à un moment donné une intervention directe de Dieu dans les affaires de ce monde, Et il est venu comment? Au travers de son Fils Jésus-Christ. Hein. Vous voyez comment Jésus descendu de cette unité avec son Père, il est descendu sur cette terre au milieu de nous, vous connaissez l'histoire. Et alors, on voit tout le merveilleux plan du salut, on voit le rétablissement de cette connexion verticale dont je vous ai causé avant, entre Dieu et l'homme, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, pour de nouveau pouvoir avoir communion avec le partenaire qui s'était choisi, tout en respectant ses lois. Parce que si tout simplement il avait ignoré ce qu'il avait déclaré dans le passé, que le péché, qu'est-ce qu'il exige? Qu'est-ce qu'il exige? La mort du pécheur. Dans l'Ancien Testament, c'était pas plus ni moins que cela. Le péché demandait une expiation par la mort. Alors pour pouvoir tenir ses lois, ses propres lois, tout en arrivant à rétablir la communion, la connexion avec son partenaire, il a envoyé son Fils qui a repris les coups que nous, on avait mérités. Hein. Vous connaissez ce merveilleux plan du salut, et c'est grâce aussi à cela que nous sommes ici ce soir. Et alors, si vous lisez Actes 14, 22, Colossiens 13, 1 Thessaloniciens 2, 12, Apocalypse 1, 6, vous voyez que là maintenant, il y a un effet d'arrachage. Nous avons été, il est marqué là, nous avons été arrachés du royaume de Satan pour être transportés dans celui de Dieu. Transfert de royaume à l'autre. Et puis, il y a une autre belle image dans cette intervention, on voit qu'il y a une greffe de l'Église maintenant sur l'ancien tronc Israël. Si vous lisez Romains 11, 11 à 26. Et c'est là-dessus ce soir que nous allons parler encore un instant. Jusque-là, maintenant, on avait eu, dans l'Ancien Testament, vous avez ce peuple qui a été le peuple choisi, hein, qui a été sélectionné pour ce plan de rétablissement. Là-dessus, sur ce peuple, maintenant, du fait que ce peuple a aussi failli, hein, comme le jardinier, coupure, greffe, nouvelle greffe. Et maintenant, on va commencer de l'Église. Je fais une petite parenthèse, parce que vers la fin de la soirée, vous allez comprendre pourquoi. Parce que jusqu'à maintenant, on a l'habitude souvent de dire, on n'est pas à cheval près hein, dans bien des choses. Il ne faut pas trop non plus croire que Dieu, il est tellement exigeant, il est tellement perfectionniste, qu'il nous demande tant, etc. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour vous faire comprendre le perfectionnisme de Dieu. Il est perfectionniste jusqu'au plus haut point, Dieu. Alors, je vous inviterai de lire vous-même les passages bibliques. Si vous regardez, par exemple, ce qu'a provoqué la non-exécution par Saül d'un ordre de Dieu, 1 Samuel 15, 7 à 23, c'était le rejet. Si vous regardez, par exemple, l'histoire de l'arche de l'Alliance qui est revenue du pays des Philistins, transportés sur un char neuf qu'ils avaient fait, ils étaient tout contents de ramener l'arche de l'Alliance dans le pays. Et puis Uzza, un des serviteurs de David, qui était à côté de l'arche, et puis voilà l'arche, hein, le chemin était un peu caoutheux, l'arche a failli dégringoler du char, et puis Uzza a essayé de le retenir. Il était frappé par Dieu, à mort. Et David lui-même, il n'a pas compris. Il a dit, mais Seigneur, il a eu peur du Seigneur. Et après, ils ont fait des recherches. Et ils ont vu que Dieu avait des exigences très précises sur la façon de porter l'arche de l'Alliance. Qui devait la porter? Comment on devait la porter? Dieu est un Dieu précis, très précis. Et si nous regardons plus loin, vous voyez la conquête de Jéricho. Hein, vous les voyez tourner autour de la ville. Et puis, c'est les Israélites qui tournaient autour de la ville, ils étaient liés par un processus très rigide, très précis. Quand il leur a été cité combien de fois ils devaient tourner autour de la ville, comment ils devaient tourner autour de la ville, ne pas parler, etc. Et à un moment donné, il leur a été dit de crier, de sonner les trompettes. Dieu est un Dieu précis. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et vous voyez par exemple aussi l'histoire de l'infidélité de Dacan qui a amené un interdit sur le peuple. Ils avaient reçu ordre de tout détruire, de tout dévouer par interdit. Dacan, il a caché quelque chose dans sa tente et au travers de cela, ça a amené un interdit sur tout le peuple, etc. Pensez au cas d'Ananias et Saphira dans les Actes. Et puis, si vous lisez par exemple Hébreux 9, 1 à 10, la construction du tabernacle était rigoureusement définie par Dieu. Il y avait là-dedans même et cité des prolongements dans les réalités spirituelles. Donc je passe là-dessus. C'est juste pour vous faire comprendre, Dieu, c'est un architecte qui a des mesures précises. Hein. Et maintenant, puisque nous allons parler de l'Église ce soir, alors nous allons parler un instant des raisons de l'Église. Si vous lisez différents passages bibliques, vous voyez toujours cette pensée de Dieu où il cherche une relation avec un peuple. Il cherche la relation avec un peuple qui est dédié à lui, pas seulement avec l'individu. Et ce soir, j'aimerais vous rendre attentif à une chose. Beaucoup de passages bibliques, une grande partie des passages bibliques, ils peuvent être pris par l'individu, c'est vrai. Mais si vous regardez bien le contexte, ils s'adressent à un ensemble, ils s'adressent à un peuple. Gardez un peu votre Bible sous cet aspect-là. Il y a beaucoup de promesses bibliques qui s'adressent au peuple de Dieu, en définitive. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous voyez aussi, par exemple, quant à la raison de l'Église, dans Éphésiens 3, 9 à 11, Dieu désire faire une démonstration. Il aimerait faire une démonstration par rapport à ce monde de puissance noire, ténébreuse, de Satan. Il aimerait leur démontrer quelque chose au travers de l'Église. Ça, c'est juste une petite préparation pour vous faire comprendre la nature même, ou donc la raison même de l'Église. Maintenant, on va parler de la nature et l'essence même de l'Église. Là, il vous faut bien vous concentrer un instant. Je vous demande une concentration très forte, parce que ce soir, il faut que vous repartiez d'ici en ayant une vision de l'Église biblique, plus selon les systèmes religieux du passé. Malheureusement, notre vision de l'Église, elle a été faussée par l'histoire qui est derrière nous. Nous avons tous hérité d'une portion de l'histoire. Les uns comme ça, les autres autrement, je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez mieux que moi. Il y en a tellement. Et chacun de nous, il a été programmé par ce passé et par ce qu'il vit actuellement. Mes amis, mes chers frères et sœurs, il est temps. Et je parle en connaissance de cause, je suis informaticien. Il est temps que vous-même, que nous tous, on se laisse reprogrammer par la parole de Dieu concernant de ce qu'est l'Église. Et qu'on arrête de se faire des idées, qu'on arrête de parler sur l'Église selon notre vieille programmation, qui très souvent est complètement aux antipodes, qui est complètement opposée à ce qui est écrit là-dedans. Et c'est pourquoi ce soir j'aimerais vous rendre attentif. Maintenant on va passer quelques points en revue très rapidement, le temps avance, mais où je vous rends attentif, derrière tout cela, il y a un plan de Dieu très précis. Alors si nous parlons de la nature et l'essence de l'Église, il est important que nous allons comprendre certaines choses. Église, ça vient du mot grec ecclésia. Excusez-moi ceux qui connaissent l'histoire, qui sont du groupe. Ecclésia, ça veut dire quoi? Appelé hors de. Ça, c'est le sens de l'Église. Le mot grec ecclésia veut dire appelé hors de. Appelé hors de quoi? Appelé hors du monde. Appelé hors du royaume de Satan. Et là, j'aimerais vous rendre attentif que selon 1 Pierre 5, 13, eh bien, l'Église, elle est formée d'un groupe d'élus. Je sais, il n'y a pas beaucoup, il y en a qui n'aiment pas cela. Ils disent, vous êtes prétentieux, comment est-ce que vous osez en exclure, en faire entrer d'autres? La Bible parle de l'Église comme d'un groupe d'élus, d'un groupe de sélectionnés, d'un groupe de choisis. Il n'y a pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment qu'il y a dans l'Église. Sinon, si vous prétendez cela, vous venez après, on va regarder point après point les passages bibliques qui parlent de l'Église. Je les ai notés là. Et vous allez voir que l'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas constituée par n'importe qui. Elle est constituée d'un peuple élu, choisi, sélectionné, selon des critères très précis. Alors, il est important que nous allons comprendre la nature de l'Église. Alors, on voit premièrement, j'ai sorti sur cette nature, j'ai sorti trois points. D'une part, on voit que c'est une famille qui a un père. Deuxièmement, on voit que c'est un troupeau de brebis avec son berger. Troisièmement, c'est une épouse, une future épouse qui attend son époux. Ça, c'est la nature. Je ne parle pas encore de la fonction, de tout ce qui est fonctionnel, relationnel pour le moment. Je parle seulement de la nature. Comme un lapin est un lapin, il a la nature du lapin. Un chat, il n'a pas la nature du chat, il n'a pas la nature du lapin, excusez-moi. Il se comporte comme un chat, et puis un cochon, eh bien il a la nature d'un cochon, et il ne se comportera pas comme un chien. Eh bien l'Église, elle a une nature, c'est la nature de l'Église. Et si nous voulons la comprendre, eh bien, il faut interroger la Bible. Alors nous voyons premièrement que un des points de cette nature de l'Église, c'est une famille qui a un père. Et vous pourrez lire, on pourrait lire tous les passages bibliques qui se rapportent à cela. C'est les membres d'une famille habitant une même maison, distincts des autres, selon Éphésiens 2, 19, 1 Timothée 3, 15, qui sont séparés des autres, selon 2 Corinthiens 6, 16 à 18. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué dans la Bible. Nous avons reçu par l'Esprit un esprit de filiation, c'est-à-dire où nous devenons des enfants d'un père, où nous pouvons crier « Abba Père ». Et nous sommes des enfants de Dieu, su et vécu consciemment, selon Romains 8, 14 à 17, Galates 4, 5 à 7, 1 Jean 3, 1. Nous avons été procréés à nouveau, nés de nouveau, par la semence de Dieu, selon 1 Pierre 1, 23. Nous avons été faits des nouvelles créatures, selon la nature du Père, selon 2 Corinthiens 5, 17, Éphésiens 2, 10, Galates 6, 15 et 16. Et celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est marqué dans ma Bible, selon 1 Jean 3, 9 et 10. La vie de la famille de Dieu, elle est faite d'amour et de relations, selon 1 Jean 3, 11 à 24, Romains 12, 10. Alors, j'ai mis là une petite conclusion. Celui qui n'a pas été conçu et né de Dieu ne possède pas son caractère. Et sa nature, elle ne fait pas partie de la famille de Dieu. Point. Celui qui n'a pas été conçu par Jean-Pierre Traxel, il ne fait pas partie de la famille Traxel. Point. Comprenez quelque chose? C'est fini. C'est fini cette histoire où on essaye d'intégrer dans l'Église n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. C'est la Bible qui le dit. Ayons le courage de parler selon la Bible et ne plus faire un mélange total. Ce mélange qui est tellement terrible, qui est en train de se faire aujourd'hui depuis des années et qui dégoûte ce monde. Ce monde, il est dégoûté de ce mélange. Il ne nous persécute plus. Parce qu'ils nous méprisent. Mais le jour, on dira de nouveau, ce qui est blanc, c'est blanc, puis ce qui est noir, c'est noir, vous allez voir la réaction du monde. Il va réagir. Et aujourd'hui, il n'a pas besoin de réagir, parce que nous sommes tellement devenus des mous. On est tellement devenus, on met tout à toutes les sauces. Alors ayons le courage de reparler de nouveau le langage de Dieu. Deuxièmement, on a parlé d'un troupeau de brebis et son berger. De l'avance, j'essaye d'aller encore plus vite. Nous voyons que selon Matthieu 25, 32 à 33, il y aura une sélection. Et cette sélection sera selon la nature. Et la Bible nous parle, la version seconde nous parle de brebis et de bouc. Et pendant un instant, ça m'a un peu troublé. Je me suis dit, alors il y a une ségrégation sexuelle là. Ça m'a paru bizarre. J'ai regardé le texte grec et ça m'a réconforté parce que le texte grec ne parle pas du bouc, mais il parle de la chèvre. En effet, je ne sais pas pourquoi Segond a traduit bouc, mais en effet, donc le texte grec dit donc il y aura une seule sélection selon les brebis et les chèvres. Alors, la nature de la brebis, elle est censée d'être soumise, douce et contraire à la rébellion. Déjà, pourquoi le Seigneur utilise ces images-là, tellement merveilleuses. Et puis, si vous lisez Jean 10, 7 à 9, vous voyez qu'il y a une entrée unique dans la bergerie. Et il faut rentrer dans la bergerie, faire partie du troupeau. Donc, il y a un troupeau de brebis et son berger. Et puis, si vous lisez aussi Jean 10, 1, 2, 4, 5, 15, 27, vous voyez qu'il y a une relation intime, personnelle, entre la brebis et son berger. Il reconnaît sa voix. Je ne sais pas comment il appelle, les différents bergers, ils ont différents cris d'appel, gouli, 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 ou j'en sais rien. Mais la brebis, elle reconnaît la voix de son berger, parce qu'elle fait partie du troupeau. Et celle qui ne fait pas partie du troupeau parce qu'elle n'a pas la nature de la brebis, eh bien, elle est tout simplement dehors. Et si vous lisez la Bible, c'est marqué clair et net. Et alors, quand on est dans le troupeau, alors c'est clair, il y a sécurité, protection, nourriture, conduite, discipline aussi, selon Jean 10. Et maintenant, troisième point, point très important, c'est cette attente d'une future épouse attendant son époux. Et si vous lisez 2 Corinthiens 11, 2, Jean 3, 29, Osée 2, 16, 25, nous voyons que nous sommes fiancés à un seul époux en tant que vierge pure. Si vous lisez Éphésiens 5, 25 à 33, vous voyez cette merveilleuse image qui est tirée en parallèle entre l'amour, entre mari et femme, et puis Christ et l'Église. Et si vous voyez dans Apocalypse 19, 7 et 8, Matthieu 25, 1 et 2, vous voyez le point culminant de l'attente qui aboutit à la fête, les noces. Il y a des noces qui nous attendent. Alors vous voyez que selon Apocalypse 21, 9, vous voyez que l'épouse, la femme de l'agneau, égale Jérusalem céleste. Gloire, beauté, versets 18 et 20 à 27. Et puis, tout à la fin de notre Bible, comme un point d'orgue, un point final, l'Esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur, viens, on t'attend. Apocalypse 22, 17. Alors, j'ai noté là comme un point de conclusion, relation verticale d'amour dans la pureté et la séparation, contraire à la prostituée, celle qui est l'épouse, elle attend. Elle attend dans la pureté, dans la séparation d'avec ce monde. Si vous lisez un peu ces passages bibliques, vous voyez que l'épouse de Jésus-Christ, elle est séparée, elle est sortie de ce monde. Et ce que nous voyons aujourd'hui, mes chers amis, je suis peiné de devoir le dire, mais ce que nous voyons aujourd'hui de notre soi-disant christianisme, eh bien c'est tout simplement de la prostitution. C'est des putes spirituelles que nous vivons aujourd'hui. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui, qui s'appelle christianisme, il y a tellement de putains spirituels. Et il est temps de le dire que si nous voulons faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, eh bien, il faut que nous ayons la nature de l'épouse. Sinon, nous sommes dans la prostitution. Il est temps de le dire. Trop longtemps, nous avons vécu en faisant avec cette prostitution. Le temps, il est venu où on ose déclarer clair et net ce que la Bible déclare. Nous allons avancer très rapidement. L'Église, il y a un aspect structurel qu'il nous faut aussi connaître. Hein. Nous voyons l'Église comme une maison spirituelle. Combien longtemps j'ai charmé? Demi-heure? Normalement, je devrais avoir fini. L'aspect structurel de l'Église, j'ai relevé, il y a différents autres points qu'on pourrait aussi relever, mais j'ai relevé deux points. D'une part, on voit que c'est une maison spirituelle. Alors, on voit que nous sommes la maison appartenant à Christ, car elle fut construite par lui, selon Hébreux 3, 4 à 6, 10, 21. Nous sommes les pierres vivantes de cette maison spirituelle, et Jésus est la pierre angulaire, selon 1 Pierre 2, 4 à 8, Luc 20, 17 et 18. Nous avons été édifiés sur un fondement, apôtres, prophètes, avec la pierre angulaire Jésus pour former une maison, un temple habité par l'Esprit Dieu. 2 Corinthiens 6, 16. C'est un édifice lié et joint, cimenté ensemble, Éphésiens 2, 19 à 22, 1 Corinthiens 3, 16, 17, etc., etc. Hein. Un seul fondement est possible, Jésus-Christ. La construction sur ce fondement ne peut pas se faire n'importe comment et avec n'importe quoi comme matière. Il y a des prescriptions précises de l'architecte divin, selon 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Je continue, deuxième point, dans cet aspect structurel, nous sommes aussi appelés une nation, un peuple. Alors lisez tous les passages qui parlent d'une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, 1 Pierre 2, 9 et 10. C'est marqué dans la Bible. Une race élue, une nature sainte, c'est-à-dire mise à part. Un peuple acquis, pas n'importe qui. Et dans l'Église, pas n'importe qui. Aujourd'hui, on voudrait y mettre n'importe quoi, n'importe qui. Non, c'est pas biblique. Appelé d'entre les juifs et les païens pour être le peuple de Dieu, selon Romains 9, 24 à 26, Apocalypse 18, 4, un peuple qui appartient à Dieu, Tite 2, 14, Hébreux 8, 10, pas n'importe qui non plus, mais au Dieu vivant. Un peuple au milieu duquel Dieu demeure, envie de demeurer au milieu de son peuple, selon 2 Corinthiens 6, 16, Apocalypse 21, 3. Et nous voyons maintenant ce peuple, cette nation, nous la voyons, si vous voulez, d'abord comme une unité globale. Jésus, écoutez-moi bien, parce que c'est important cela. Jésus bâtit son église, Matthieu 16, 18, l'église universelle. La Bible nous parle de l'église du Seigneur, de Dieu, comme une unité globale, selon Actes 20, 28, 1 Corinthiens 10, 32, etc. Je passe là-dessus. Il est question de l'église dans un sens global, dans beaucoup de passages bibliques. Deuxièmement, vous trouvez une sous-division de cette unité globale, de l'Église universelle, qui est sur ce monde entier, vous voyez une sous-division, et une seule sous-division, mes amis. Écoutez-moi bien, ça c'est important. L'Église de Jésus-Christ, selon la Bible, elle n'est pas sous-divisée selon Pierre, Jacques ou Jean ou n'importe qui. Elle n'est pas sous-divisée selon baptiste, pentecôtiste, catholique, protestant, n'importe quoi. Elle est sous-divisée dans la Bible selon un principe de localité. Toute autre sous-division, c'est une coupure qui est un péché contre le Seigneur. Si on divise l'Église d'une façon différente que ce qui est marqué dans la Bible, c'est un péché contre notre Seigneur, contre la tête de l'Église. Et nous l'avons commis dans le passé. Vous n'avez qu'à regarder le résultat. Revenons au principe biblique de l'Église. On n'aura plus besoin de faire un tas de séminaires, de rencontres d'unité, et de brasser du vent concernant ces choses-là. Un peuple qui revient 100% à la parole de Dieu, ça sera aussi un peuple qui sera uni. Mais aussi longtemps qu'on est loin de la parole de Dieu, bon, on peut longtemps encore faire des grosses conférences, des gros séminaires, des gros débats sur l'unité. Sous-division en unité locale. L'église locale, ça c'est biblique. L'église d'Avanche, même s'il y a différents groupes qui se réunissent dans différentes maisons, Et bibliquement parlé, on ne devrait parler que de l'église d'Avanche. Il ne devrait pas y avoir l'église de monsieur tel et tel, de l'organisation religieuse telle et telle. Selon la Bible, on parle de l'église d'Avanche. Et tout ce qui est en dehors de cela, ce n'est pas biblique. Permettez-moi de vous le dire ce soir. Ensuite, passons rapidement sur l'aspect fonctionnel de l'église. Là, j'ai relevé un, deux points. Premièrement, on voit que l'église, elle est désignée comme un corps, comme un organisme, pas comme une organisation. Un corps, un organisme. Et vous avez qu'à regarder tous les passages, il y en a tellement, nous formons un seul corps, constitué de membres divers, selon Romains 12, 4 à 5, Ephésiens 4, 4, Dieu veut réunir les enfants de Dieu dispersés en un corps, selon Jean 11, 52, baptisés dans un seul esprit pour former le corps de Christ, selon 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Le baptême dans le Saint-Esprit, il vous a été donné pour cela, pour être intégré dans le corps. La tête du corps de l'Église, c'est Christ. L'Église dans son entité est le corps de Christ, selon Colossiens 1:24, Colossiens 3:15. Nos corps sont les membres du corps de Christ, etc., etc. Et maintenant, écoutez-moi bien, vous allez être choqués maintenant. Ce corps se voit et se manifeste concrètement selon 1 Corinthiens 12, vous lisez le premier verset, 1 Corinthiens 12 jusqu'au dernier de 1 Corinthiens 12, mais il commence, je ne désire pas que, donc l'apôtre Paul quand il écrit aux Corinthiens, il écrit, je ne désire pas que vous soyez ignorants concernant les... vous connaissez pas ça? Je vais vous dire... Traduction, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Traduction littérale, selon le grec. Pardonnez-moi ce soir de devoir prendre un tout petit peu le grec en avant, mais c'est tellement riche, c'est tellement merveilleux d'avoir encore à disposition les bases d'où nous vient notre parole biblique. Il est marqué textuellement dans la Bible pour ce qui concerne les spirituels, les pneumaticones. C'est ceux... Si on regarde bien, si on regarde un petit peu comment la Bible parle de cela, il s'agit là des hommes qui ont reçu l'Esprit, qui vivent sous l'action de l'Esprit, qui ont reçu la nature de l'Esprit. Alors là, maintenant, écoutez-moi bien, si vous étudiez bien 1 Corinthiens 12, vous allez voir leur manifestation ou publication, la traduction devrait dire la publication de ces réalités-là, elle se remarque par trois types d'interventions sur les apôtres et sur les prophètes qui, eux, sont fondés sur Christ, naturellement. Alors, une troisième chose dans l'exercice de ces services, vous voyez, dans l'Église, devrait se manifester, c'est-à-dire dans le corps de Christ, devrait se manifester des anciens ou des évêques. C'est marqué dans votre Bible. Des épiscopos. Épiscopos. Qui signifie des surveillants. C'est une équipe gouvernementale de l'église locale constituée d'hommes formés et éprouvés. Alors je pourrais vous énumérer toute une série de passages bibliques qui concernent maintenant les anciens, qui concernent les évêques. Parce qu'en principe, ancien égale évêque, selon ma Bible. Sauf que l'ancien, selon mes passages bibliques relevés, sont institués pas par une organisation, pas par une équipe supra-église, par les apôtres. Et une fois institués anciens, le Seigneur les qualifie, c'est marqué, c'est l'Esprit qui leur donne d'être épiscopos, c'est-à-dire des évêques. Alors vous avez des évêques dans vos rencontres, dans vos églises. Quand au Tribourg, on parle d'un évêque avec deux évêques auxiliaires, moi je vous dis que normalement, dans chaque église locale, il devrait y avoir une équipe gouvernementale de l'église locale qui est constituée d'anciens égale évêques. surveillant. Alors bon, c'est trop tard ce soir pour étudier ça en détail de tout ce qu'ils devraient faire, ces anciens, mais c'est très important de connaître cela. Et maintenant, la dernière chose dont nous allons encore vite causer, c'est cette énergie. Hein. Si vous lisez 1 Corinthiens 12, 10, Galates 3, 5, Éphésiens 3, 20, vous voyez ce mot, justement, qui a été traduit par opération, que moi j'aimerais bien traduire par énergiser. Énergiser, et puis selon 1 Corinthiens 12, 10, il est question, quand il est question de faire des miracles, donc le don des miracles. La traduction littérale, ça serait des opérations, c'est-à-dire de l'énergie qui met en route de la dynamis. Le mot grec de miracle est dynamis, puissance, force, la dynamite qui fait sauter. C'est ce qu'il nous faut de nouveau dans l'Église de Jésus-Christ. Hein. Je passe rapidement là-dessus. Le dernier point, donc on avait, si vous n'avez pas oublié, le point supérieur, c'est-à-dire dans ce qu'il faut dire dans la structure que je vous ai présentée, on était en train de parler du corps maintenant, comme un organisme, on a envie de parler de l'Église comme d'une cité, la Nouvelle Jérusalem. Alors, si vous lisez un tout petit peu Éphésiens 2, 19, Philippiens 3, 20, et puis tout le contexte biblique, vous voyez que l'Église est considérée comme une cité. Et puis dans Apocalypse, tout à la fin, vous voyez, cette cité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et cette cité, elle englobe, elle est pratiquement une société alternative. Ça veut dire elle englobe tout aussi bien des aspects spirituels, sociaux, éducatifs, gouvernementaux, judiciaires que économiques. Et il nous faut avoir le courage, mes chers frères et sœurs, dans les temps de la fin où nous vivons, de revenir à la vision de l'Église comme une société alternative. La société dans laquelle nous vivons, elle est corrompue. Elle va vers la débandade totale. Et c'est l'Église qui doit être vécue comme une société alternative, comme une lumière qui brille dans ce monde. C'est le seul point de référence qui va rester, où ceux qui sont dans ce glissement qui part, ils ont encore une lumière, un phare qui reste, qui subsiste, où ils peuvent se repérer, l'Église. Et maintenant, pour terminer, excusez-moi, ça a pris plus long que je pensais, je le saurais pour une autre fois, mais je vous ai dit, le sujet, il est très riche. Hein. Il y a dans l'Église tout un aspect relationnel qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est cela qui fera que l'Église va fonctionner de nouveau. Et plus, on ne fera plus chacun comme on voudra faire, comme on a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était comme au temps des juges, hein, dans la Bible. Chacun fait ce qui lui semble bon. Hein? Ça vous plaît pas dans une assemblée X? On va dans l'assemblée Y. Ça vous plaît pas dans l'église A? Donnez la démission, vous allez dans l'église B. Un monsieur tel et tel qui vient prêcher un dimanche vous marche un tout petit peu sur le kiki, on ne vient plus, on va ailleurs tout simplement. Ou bien si on a envie de faire sa petite popote à soi, on le fait. Jusqu'à maintenant tout cela c'était possible, mais si vous lisiez un tout petit peu, si vous lisiez un petit peu le sens même de cet aspect relationnel de l'église, la première église, ces choses-là ne se faisaient pas, ou bien ceux qui le faisaient, ils étaient en marge. Mes amis, il est temps de revenir à des choses fondamentales. Et si nous allons parler juste encore un petit instant, permettez-moi, de cet aspect relationnel. D'une part, vous voyez Jésus-Christ, le Seigneur, qui a un royaume sous lui. Alors vous voyez, tout en au-dessus, vous voyez Dieu le Père, Jésus-Christ. Et vous avez une image, par exemple, qui est utilisée dans la Bible, qui part de l'économe, qui lui a celui des serviteurs. Ça, c'est une relation que Dieu a instituée, qui existe dans l'Église, qui fait qu'à un moment donné, nous sommes institués comme des gérants, comme des gestionnaires. Je vais un tout petit peu plus loin, ça c'est une relation de service. Vous avez une autre relation, vous voyez Dieu le Père, Jésus-Christ, l'homme, la femme et ses enfants. Ça c'est plutôt une relation d'éducation et de soins. Ça ne plaît pas aujourd'hui. cette sorte de relation. Mais c'est une relation qu'il nous faut redécouvrir par rapport au monde de l'invisible. Parce que si nous ne la respectons pas, nous commençons de chasser des démons. Les démons disent, vous me faites rire, j'ai rien à vous obéir. Parce que vous n'êtes pas soumis à la relation d'autorité comme la Bible détermine. Et le seul moyen de se faire obéir par les démons, c'est d'être soumis dans cette relation comme elle est marquée dans la Bible. Et chacun qui sort de cette relation-là, eh bien, il est en marge et il court beaucoup de risques. Et déjà, rien que pour la question féminine, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il y a eu beaucoup de dérapages à cause de cela. Parce que tout simplement, on vit une nouvelle orientation, mais on ne comprend pas qu'on est en face d'un monde invisible, qui lui a des lois. Et si ces lois ne nous sont pas connues et que nous ne voulons pas les respecter, qui sont définies par Dieu aussi, nous allons être éjectés, nous allons être ignorés. Souvenez-vous l'histoire d'un acte de ceux qui voulaient faire de l'exorcisme. Il voulait exorciser un homme au nom de ce Jésus-Christ que Paul prêche. Alors les démons, ils ont dit, on le connaît Paul, on connaît Jésus-Christ, mais vous, vous êtes qui? Et ils ont reçu leur flanqué. Parce qu'ils n'ont pas été enregistrés dans la relation là. Ça c'est le risque après. Ensuite, vous voyez un deuxième aspect des relations qui est cité dans le Nouveau Testament, maître-disciple. Le Seigneur, il a formé des disciples. Et quand il avait fini son passage sur terre, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez, faites des convertis du monde entier, hein? Des gentils petits convertis. Non. Il a dit, vous allez, vous, maintenant, allez, faites des disciples, rien d'autre. Et disciples, ça a une relation toujours avec un maître. Un disciple sans maître, c'est pas un disciple. C'est vrai qu'en définitive, le maître suprême, c'est lui. Mais dans la pensée juive aussi de l'époque, c'était très bien compris. Les disciples, ils étaient chargés d'aller faire des disciples en assumant une charge d'enseignant, de maître. Ça c'est biblique, c'est 100% biblique. Et cette relation maître-disciple, elle doit exister dans l'église de Jésus-Christ. Sinon, on arrive à cette anarchie qu'on voit aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui plaît. Il y a un tas de passages bibliques qui parlent là-dessus, j'y passe. Vous avez un autre aspect relationnel, parallèle. Vous voyez cette relation père-enfant. L'apôtre Paul, il dit qu'il est le père spirituel d'un Timothée. Vous voyez qu'il parle d'autres... il dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 2, 7 à 12, il dit qu'il est comme un père qui prend soin et nourrit ses enfants. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des pères spirituels. Et il y a des enfants. Il y a une relation qui doit s'établir et qui doit exister et qui demeure, même si ses enfants deviennent grands et ont eux-mêmes des enfants par la suite. Il y a un aspect relationnel qui doit demeurer, qui doit exister jusqu'au bout dans l'église de Jésus-Christ. Vous avez un autre aspect qui est l'aspect berger-brebis, on en a déjà parlé aussi, mais qui existe au niveau des pasteurs. Et là encore, une petite parenthèse, je vais vous choquer encore une fois. On est toujours, encore aujourd'hui, avec ce concept pyramidal. En haut, le pasteur, ou le prêtre, ou ce que vous voulez, et puis après, hein. Ça on a hérité du passé, mes amis. Si vous lisez Éphésiens 4, vous voyez que le pasteur, c'est un des, qu'est-ce qu'on a dit avant? Un des cadeaux hommes, un des hommes cadeaux, qu'on a appelé ministre après. Et ça, c'est un des hommes cadeaux donnés à l'église, parmi d'autres. Dans l'église de Jésus-Christ, vous pouvez avoir des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs qui sont liés ensemble, mais qui sont complémentaires. Et c'est pas juste, bibliquement parlé, c'est pas juste le one-man show. Un homme toujours, qui fait tout, depuis la prêche le dimanche jusqu'au nettoyage des toilettes. C'est pas juste, c'est pas biblique. Et c'est ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant dans l'Église. Ce n'est pas biblique. Les ministères, ils sont complémentaires. Et si vous regardez, encore une fois, tous les passages qu'on pourrait reprendre ensemble, si vous regardez l'aspect des anciens, ils ont aussi une charge pastorale. Et il n'y a rien, bibliquement parlé, qui s'opposerait à ce que dans une église locale, qu'il y ait plusieurs pasteurs qui ont des relations, peut-être privilégiées, avec certaines brebis. Il n'y a rien qui s'oppose bibliquement à cela. Et puis, bon, ben, pour terminer, vous avez cette relation membre à membre que vous voyez apparaître dans Corinthiens 12, 14 à 26, où entre les membres, il y a un flux de vie. Hein, je ne vais plus vous citer tous les passages, l'heure est avancée. Pour terminer, application pratique. Et j'aimerais que ce soir vous laissiez interpeller par Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, et je m'inclus là-dedans aussi, jusqu'à maintenant, nous avions tendance à faire selon Agée, le prophète Agée. Lisez en rentrant ce soir, vous lisez le prophète Agée, chapitre 1 et 2, où Dieu nous dit, chacun construit sa propre demeure, sa maison lambrisée, hein, avec des belles tapisseries, des belles choses. Mettez-le maintenant dans un contexte spirituel. Chacun fait sa chose, son petit truc. Et puis, les résultats que nous avons, ben vous pouvez aussi les voir dans Agée. Nous ramassons le blé, nous ramassons le fruit, et ne nous rendons pas compte que derrière on a des trous. Ce que nous mettons dedans, on le perd derrière nouveau. Ce que nous entassons sur notre char, derrière ça retombe en bas de nouveau. C'est une tragédie, mes amis. On enfante des enfants pour le diable aujourd'hui. Réunion d'évangélisation, qui c'est qui veut se donner au Seigneur? Une main, le Seigneur vous a vu. Encore une autre, merci. Encore une autre, merci. Puis après, quand la réunion est finie, bon, des fois c'est l'inverse encore. Il y en a 4-5 qui attendent dans la porte pour mettre le grappin dessus. Pourquoi? Pour sa chose à lui, son truc à lui. Mes amis, ce soir, il est temps que nous ayons le courage d'avoir de nouveau la vision de la maison de Dieu selon Agée. Vous allez lire Agée, parce qu'il nous appelle, Dieu nous appelle à construire sa maison. Sa maison. Et ce soir, j'essaye de vous donner, j'ai peut-être pas bien réussi, c'est pas si facile que ça d'apporter une vision de Dieu qui est basée sur tout un ensemble. Mais néanmoins, j'aimerais bien que vous puissiez partir d'ici en vous disant, c'est vrai, il y a quelque chose à découvrir de nouveau concernant l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous construisons sa maison. Et que nous arrêtons de nous préoccuper de nos petites choses. Il n'est pas dit, il ne nous appelle pas, selon Agée, vous allez voir, il ne nous a pas appelé à démolir les maisons existantes, mais il nous appelle de nous engager sans crainte, de construire sa maison, en ayant la vision glorieuse, et je vais vous la lire. Parce que c'est pas possible autrement que nous puissions nous quitter ici sans ayant donc cette vision glorieuse. Donc d'une fin quelque part. Il y a quelque part quelque chose qui se terminera. On arrive à un aboutissement maintenant. On arrive tout près à un temps où tout se terminera. Et il est dit que la dernière maison, elle sera plus glorieuse que la première. Elle sera plus glorieuse. Vous lirez Agée en rentrant. Et c'est ça, ce soir, j'aimerais vous mettre à cœur, mes chers frères et sœurs. N'ayez pas peur de vous engager dans quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans le monde entier. Oh, combien j'étais heureux de voir de ce que le Seigneur nous avait montré, nous avait donné, bien que c'est en train d'être vécu à gauche, à droite, en Angleterre, en Italie, en France, en Belgique, partout. Il y a des choses qui se mettent en route maintenant, où il y a une vision qui est donnée à son peuple et qui est celle-là que bientôt le Seigneur va revenir. Il va venir chercher une épouse belle, propre, puissante,
Et il ne va pas venir chercher une pauvre, petite, méprisée, prostituée, sale, plein de tâches, plein de compromis. Pensez-y, le Seigneur vient chercher une belle église. Alors est-ce qu'on veut y faire partie? Si oui, je vous invite ce soir à y penser sérieusement et se dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans tout cela? Il ne suffit pas seulement de dire, oui Seigneur, fais ton œuvre, hein, je sais que ça devrait se faire. Non, vous avez vu que l'Église, corps de Christ, c'est une réalité. Et celui qui n'exerce pas les fonctions des membres d'un corps, je mets un grand point d'interrogation sur son appartenance du corps. Parce qu'un corps, il est visible, palpable, il est compris à base de mes membres, d'un ensemble de membres qui fonctionnent, mes yeux, mes oreilles, tout ça, ça fonctionne. Alors au moment où nous nous prétendons être membres du corps de Christ, et puis que nous nous comportons comme des bouts de bois, ça ne joue plus. Ça ne joue plus. Il y a quelque chose à vivre, quelque chose à démontrer. Et là, on peut parler de l'Église, corps de Christ. Alors laissons-nous interpeller. Il y a une vision pour vous ici, pour la voix. Le Seigneur a préparé des pierres vivantes. Et il aimerait construire avec cela. Et n'ayons pas peur d'aller à contre-courant de l'histoire. On a hérité de l'histoire des sacrés morceaux, hein. Ça c'est vrai. C'est pas évident, hein. Mais ayons le courage d'avancer résolument et puis dire, Seigneur, sans compromis, je suis là, à ta disposition. Qu'est-ce que tu veux maintenant que nous vivions ici concernant l'Église, ton Église, que tu viendras chercher. Amen. C'était pas trop indigeste, c'était un peu plus long que je pensais. Je ne sais pas quels sont les horaires que vous avez en principe.
Vous restez dans un flou qui gêne un peu, j'aimerais savoir à quoi vous pensez.
Oui. Bon, il est vrai que le flou, il a différentes raisons. D'une part, c'était déjà le manque de temps, hein, donc on ne peut pas se permettre de faire une étude approfondie sur ces choses-là en une demi-heure, en une heure, quoi. Mais je vais essayer d'être plus précis sans me laisser piéger, hein, parce que votre question, c'est une question piège. Si on parle de l'héritage de l'histoire, il est clair que nous avons tous un contexte qui est derrière nous. Les uns sont nés dans le canton de Vaud, qui a été par définition réformatisé, si on peut dire comme ça. D'autres ne sont pas nés dans le canton de Vaud, sont nés dans le canton de Fribourg, d'autres sont nés encore ailleurs. Et ils ont subi, et là je suis catégorique, ils ont subi cette situation. Mes ancêtres, j'ai rien à cacher, je suis originaire de l'Oberland bernois. J'ai su un petit peu comment mes ancêtres ont été évangélisés, réformatisés dans l'Oberland bernois. On les a ramassés à Interlaken. Et le gouvernement bernois, le jour où il avait décidé d'introduire la réforme, il a tiré avec les canons par-dessus les têtes. Il a dit, voilà, aujourd'hui, c'est décidé, vous êtes réformés, terminé. Avec le reste. Ça, c'est un des aspects de notre héritage du passé. Et vous croyez qu'aujourd'hui, on n'en ressent pas encore les effets, même si on parle de d'amour, d'unité, tout cela. Vous savez, si on a un peu le courage de gratter et de regarder derrière les coulisses, bien, les semences qui ont été semées dans le passé, ils sont toujours encore actifs, ils sont là. Et si aujourd'hui nous avons toute une partie de la soi-disant Église de Jésus-Christ qui se réfère à Jésus-Christ, mais qui, excusez-moi, hein, si je les fâche, je suis un tout petit peu violent, mais qui s'en fout comme de l'an 2000 de cette parole de Dieu, alors je dis, alors ça c'est un héritage du passé.
C'est un héritage du passé. Et cet héritage-là, je le mets en question. Je ne veux pas aller dans les détails, je ne vais pas commencer de faire la liste noire de tout ce qui pourrait être mis à l'index. Mais pour être très précis, quand même très bref, tout ce que nous héritons du passé, de notre contexte religieux, qui est en opposition flagrante avec les principes bibliques, ben, il faut avoir le courage de le dénoncer. Même si nous devons être, à un moment donné, nous devons être mis à l'index, nous, oui. Et nous serons mis à l'index. Le Seigneur, il le dit. Il faut pas l'oublier. Moi, je crois à l'évangile de prospérité, à l'évangile de l'abondance, à l'évangile de la guérison, de la libération, de toutes ces merveilleuses choses que nous trouvons dans la Bible, j'y crois. Mais je crois aussi que le Seigneur a dit qu'un jour on aura la persécution. Celui qui veut suivre fidèlement le Seigneur, eh bien, la persécution, elle est promise. Alors, je sais, je réponds peut-être pas de la façon dont vous aurez voulu à la question, mais je ne peux pas me le permettre, parce que je crois que chacun de nous, il sait ce qu'il vit et ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Et moi, je ne peux pas mettre à la place du Saint-Esprit et puis de lui dire, voilà, ça c'est un résidu de ton héritage du passé qu'il faut maintenant mettre en question. Moi, j'aimerais inviter chacun de nous à ce qu'il se mette devant le Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit et puis commence de comparer et puis dire, voilà, c'est ça que nous vivons dans notre, excusez-moi du terme, mais c'est quand même comme ça souvent dans notre société religieuse. Parce que l'Église, je ne peux plus en parler sans m'en référer à la Bible. Je ne peux plus parler n'importe comment de l'Église ou des Églises. Pour moi, l'Église, eh bien, elle doit être selon le modèle biblique, sinon il ne faut pas parler d'Église. Alors j'aime mieux à ce moment-là parler de société religieuse, comme il y a des sociétés philanthropiques ou clubs d'échecs ou fanfares ou tout ce que vous voulez. Mais tout ce qui a une peinture spirituelle, mais qui n'est pas conforme au modèle biblique, ben c'est une société religieuse, si vous voulez. Alors, il est vrai que là-dedans, on a aujourd'hui tout un mélange de ce qui nous vient encore aussi dans cet héritage du passé. On a tout un mélange de ce qui est, c'est vrai, qui est encore évangélique, qui est biblique. Et je sais, il y a des frères et sœurs qu'on trouve partout dans n'importe quelle association religieuse dans le monde entier qui ont une relation avec le Seigneur, qui ont eu à un moment donné dans leur vie ce contact avec le Seigneur et qui maintenant subissent ce contexte et qui à un moment donné sont interpellés par le Seigneur. Parce qu'il n'est pas possible que le Seigneur les interpelle pas à un moment donné, puis leur dit, voilà, maintenant tu... Hein? Il lui parle, puisque la connexion est rétablie. Puis il dit, mais ça, puis ça, puis ça, puis ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a différentes façons de réagir. Hein? Alors, quand je parle de prostitution, c'est là qu'elle commence, quand l'enfant de Dieu commence de faire... Il compromis. Au moment où le Seigneur l'a éclairé, où le Seigneur lui a parlé, et qui commence de se lier avec les choses qui sont du passé, qui sont de ce monde, qui sont de l'organisation humaine, qui sont du concept humain, qui commence par peur, par compris, esprit de compromission, comme on a tellement l'habitude dans notre chère Suisse et notre chère Suisse romande. Oui, bien sûr, mais ça c'est le compromis. Et il nous faut avoir le courage de devenir radical. Et tout ce qui n'est pas radicalement biblique, eh bien, ça commence, ça démarre par la désobéissance et ça finit dans la prostitution spirituelle. Je ne sais pas si j'étais assez clair, quoi.
Division de l'Église, vous avez en référence l'Église d'avant, non l'Église de M. tel et tel, non, c'est une question de question piège également. Trois grands prix, je vais vous terminer. Parallèlement, vous avez aussi dit qu'il y a une hiérarchie. Il y a des prêtres, enfin, il y a des évêques. Là aussi, j'aimerais avoir bien compris, vous ne citiez pas une église qui ordonne, elle, ses prêtres, mais c'était l'église de Jésus. Je vais dire là exactement ce que vous pensez.
Attendez, là j'ai pas tout à fait suivi. Donc vous aimeriez savoir si j'ai voulu viser
une telle église.
Pris
dans le contexte de l'église de Jésus-Christ, qu'il doit y avoir cette hiérarchie.
Oui, donc de toute façon, c'est vrai, dans le tir, des fois on tire tzak-tzak. Hein. C'est vrai, j'ai tiré. Et il y a peut-être eu certains points qui ont été touchés. Je reviens encore très rapidement sur la question donc de l'aspect structurel, fonctionnel, relationnel de l'Église. Alors, nous voyons d'une part, la Bible, elle nous parle de l'Église de Jésus-Christ, universelle, qui est, disons, étendue sur le monde entier. D'un autre côté, nous voyons l'Église se manifestant sur un plan local, de façon concrète. Où on sait, là, il y a un rassemblement de gens qui ont été appelés hors d'eux. Et qu'on puisse les voir, qu'on puisse les entendre. Parce que l'Église universelle, c'est très difficile de l'entendre et de la voir. Elle est partout et nulle part. Alors c'est tellement facile aussi, il y en a qui sont tellement des hyper spirituels qui disent « Oh, moi je ne fais pas partie d'une église, moi je fais partie de l'église universelle. » Ça c'est du super, du hyper, là, on plane dans les nuages. Le Seigneur il a parlé des choses très concrètes et l'église de Jésus-Christ doit se manifester localement. Et maintenant c'est là que commence dans le fin fond, la question. Comment est-ce qu'elle doit vivre ces choses localement, pratiquement? Alors, d'une part, donc on l'a dit, l'Église, elle est constituée d'hommes et de femmes qui ont été appelés hors d'eux, de ce monde, qui se réunissent librement, qui se réunissent consciemment, qui se réunissent pas n'importe comment, mais qui se réunissent pour adorer, pour louer leur seul Seigneur et Maître, Jésus-Christ. Hein. Alors, dans le fonctionnement de ces rencontres, il doit y avoir de l'ordre. Il doit y avoir une certaine façon dans le fonctionnement que la Bible nous décrit. Et c'est là que je vous ai fait allusion donc à 1 Corinthiens 12, où d'une part, nous voyons ces différentes manifestations du Saint-Esprit, mais nous voyons aussi, Éphésiens 4, nous voyons aussi des hommes clés, des hommes dons, qui ont été donnés, pas seulement à l'église locale, selon Éphésiens 4, on voit qu'ils ont été donnés à l'ensemble de l'église, mais pour le bon fonctionnement de chaque église locale, mais sur laquelle ils ne doivent pas exercer une autorité finale. L'apôtre Paul, il avait, à un moment donné, si vous regardez bien comment il a procédé, il allait à un endroit, il prêchait l'évangile, il restait pendant X mois, puis après, quand il pensait que l'heure était venue, quand le Seigneur le conduisait plus loin, il a désigné des anciens dans l'église. Et comme je connais l'apôtre Paul, il l'a fait sous l'inspiration du Seigneur. Hein, il ne l'a pas fait n'importe comment, parce que durant ces mois où ils étaient ensemble, il a pu voir tel et tel, il a une possibilité d'enseigner les autres. Tel et tel, il a un cœur de berger, il a un cœur qui est prêt pour penser, pour aider, tel et tel, il a cette possibilité-là. Alors avant de partir, avant qu'il dise au revoir, il a fait une réunion d'adieu, il a dit, voilà mes frères et sœurs, voilà le Seigneur m'a mis à cœur, toi. Et bien maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez assumer cette charge, cette tâche d'être les superviseurs, ceux qui exercent le gouvernement local de l'Église. Et l'apôtre Paul, après les avoir bien embrassés, il a pris son bâton Ben, elle est partie. Et pendant des mois, ils ne se voyaient plus. Il n'y a pas de téléphone hein, pour demander, etc. Il y avait des courriers de temps en temps, etc. Cette église, elle était obligée de fonctionner maintenant pour elle-même. Elle n'avait pas une hiérarchie au-dessus qui lui disait, voilà, maintenant, vous avez besoin d'un bâtiment, hein, vous êtes un peu devenu trop grand dans la maison de monsieur tel et tel. Voilà, on vous libère les budgets, les fonds, vous allez pouvoir acheter ça là-bas, ou j'en sais rien. Ou bien qu'à un moment donné, leur a envoyé un pasteur, un nouveau pasteur depuis je n'en sais rien d'où, qui vient s'implanter là, dans ces églises. Ils ont eu un caractère local, indépendant, où ils avaient un gouvernement interne, des hommes qui étaient du milieu du peuple. Et l'apôtre Paul, de temps en temps, quand il était de passage, il venait, il se renseignait comment ça allait, il donnait des instructions pour des questions de doctrine, et si alors il y avait des problèmes qui touchaient toutes les églises, comme par exemple le problème des relations entre juifs et hébraïsants, alors ils ont convoqué un concile à Jérusalem, comme diraient certains. Ils ont convoqué le concile de Jérusalem. Alors les apôtres, ceux qui avaient une charge extra-locale, ils se réunissaient à Jérusalem et ils ont discuté ensemble sous l'onction du Saint-Esprit. Et le résultat était, ils ont dit, voilà, il a plu au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer, de n'imposer aux païens pas d'autre chose que s'abstenir des viandes, sacrifier aux idoles, du sang, du boudin, hein, etc. Le seul sang, quoi, non ? Etc. Rien d'autre. Alors, ils allaient, ça partait dans les différentes églises et chacun savait, ah, il y a une prise de position de la part de ceux qui sont à l'origine, pas là. C'est là la différence. La hiérarchie biblique du Nouveau Testament, elle est toujours retournée. Le Seigneur l'a clairement dit, celui qui veut être grand parmi vous tous, qu'il devienne le serviteur. Celui qui veut un grand ministère, il faut d'abord qu'il apprenne à servir, à pousser les toilettes, à servir, à aider, à ça. Hein? Ça, c'est le début des grands ministères. Servir d'abord. Et là, ils ont compris maintenant, ceux qui nous ont servis, qui sont à la base de l'existence de notre Église, eh bien, ils ont ressenti devant le Seigneur telle et telle orientation. Mais ce n'était pas comme ça. C'était toujours comme ça. Pour porter, pour aider, quoi. Alors, il est vrai que là-dedans, cette relation entre l'Église locale, l'apôtre, le prophète, le pasteur, parce qu'il y a aussi un sens pastoral dans le sens large qui est dans Éphésiens 4, ou bien l'évangéliste. Alors, c'était des hommes, c'était des ministères qui exerçaient cela par-delà l'église locale. Mais l'église locale, elle fonctionnait avec le conseil des anciens. Ça, c'est le gouvernement à l'échelle locale.
Toujours abusé de votre somme, mais c'est pour un problème assez sérieux que vous avez évoqué. Vous avez fait une présentation de prédestination. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a que certains individus précis qui sont sauvés. Hein? Une église élitaire. Élite, ça veut dire qui se distingue, qui est choisi. Oui. Donc, que se passe-t-il à votre avis de toute éternité? Dieu a choisi un certain nombre d'individus pour les sauver, et puis les autres, ils n'avaient pas la chance d'être un bon panier au moment du tri, donc ils sont perdus, les moyens de sont foutus. C'est ça que vous voulez dire?
Non, donc en partie, mais pas tout. Prédestination, c'est aussi un aspect piège, je m'en rends bien compte.
Là, c'est par sélection.
Oui. Je vois dès le début de l'histoire.
Je pense pas au sens de l'Israël, qui est effectivement un peuple et est choisi pour assurer d'Abraham à Christ un message très particulier. Je pense à cette question pour nous, pour ceux qui sont venus après.
Oui. Donc pour bien mettre les choses au point, je ne crois pas à l'approche musulmane d'une certaine fatalité, parce qu'elle est dans le fin fond, il y a une orientation comme ça, si on le pousse à l'extrême, donc je suis choisi ou je ne suis pas choisi, Inch'Allah, donc ça a été décidé comme ça, puis terminé, il n'y a plus de chance pour moi, ça c'est pas biblique. Ça n'a aucune consonance biblique.
Vous avez évoqué quelque chose comme ça.
Oui, mais j'aimerais juste vous rendre attentif, encore une fois, de certains points que j'ai cités dès le départ. Je vois dès le départ dans la Bible, je vois toujours un aspect relationnel entre Dieu et sa créature dans une relation de partenaire. Comprenez ce que je veux dire ? Une relation de partenaire où il y a je dirais une concordance entre les deux, un cheminement parallèle. Alors, on voit toujours, au travers de l'histoire biblique, on voit qu'à un moment donné, Dieu appelle. Et il attend, il attend toujours l'écho de son partenaire. S'il n'y a pas l'écho, eh bien, il y a une partie qui se termine là. C'est exactement la même chose que je voulais évoquer. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a un appel, et il y a des passages qui nous disent clairement que Dieu a tant aimé le monde. Donc, le monde entier, il y a d'autres passages qui disent que c'est dans la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Je crois à un dessein délibéré de Dieu d'offrir à chacun une chance, d'une façon ou d'une autre, mais que cette chance, elle peut être acceptée ou rejetée. Moi, je crois à cette relation-là. Et si nous parlons après de sélection et de race élue et d'un peuple choisi, je le crois, bibliquement vu, je le crois qu'il est constitué justement d'hommes et de femmes qui ont été appelés et qui ont dit oui.
Oui, parce que vous avez dit, on n'est pas n'importe qui. Alors, je dirais, tout le monde est appelé, mais
ce
n'est pas n'importe qui qui répondra.
Oui, pour bien préciser cette pensée-là, je veux la dire peut-être d'une façon très concrète. Je ne pourrais bibliquement parler, je ne peux pas accepter qu'on définit comme faisant partie de l'Église de Jésus-Christ n'importe qui qu'on définit aujourd'hui. Et ça dans le sens qu'aujourd'hui, vous avez qu'à écouter un petit peu, vous allez écouter certains messages que vous entendez à la radio ou n'importe où, à toutes les sauces qu'on peut l'apprêter, mais où on a bientôt une synthèse qui vient pas seulement du camp chrétien, si on peut dire comme ça, mais il y a toute une approche maintenant qui vient aussi de l'extérieur pour une sorte de recherche d'un syncrétisme qui veut que, en définitive, on en revient à une pensée qui est loin de la pensée justement biblique, mais qui se rapproche plutôt d'une pensée que vous connaissez depuis l'Orient, cette idée de la montagne où chacun est en train de grimper de son côté pour aboutir en définitive là-haut. Alors si vous grimpez là, ou si vous grimpez là, ou bien si vous grimpez de l'autre côté, peu importe, pourvu qu'un jour on se retrouve là-haut. Ça c'est cette pensée-là que je réfute. Je dis, il y a un chemin. Il y a un seul chemin, et c'est par ce chemin-là qu'il faut passer. Et celui qui n'y a pas passé, nous n'avons pas le droit de l'introduire.
Mais quels sont les critères pour savoir qui a passé le chemin et qui n'a pas passé le chemin? Parce que vous dites ça, moi je suis d'accord, mais alors, vous dire que vous admettez que vous-même, vous n'avez pas très bien pris. D'accord? Mais sur quels critères?
Mais oui, bien sûr. Déjà rien que sur les passages que je vous ai cités sur la nature de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pas moi qui les définis ces critères. Prenons 2 Corinthiens, je prends quelques passages qui me tombent là sous les 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Je ne sais pas si je tombe directement sur les bons passages, mais voilà. J'en ai pris un là, il y en a d'autres.
quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, bibliquement parlé, j'ai le droit de dire que ceux qui ne sont pas sortis, ben ils ne font pas partie.
Mais c'est qui ne sont pas sortis?
Oh là, c'est pas moi qui va faire le tri, hein. Ce soir, je ne suis pas là comme, en tant que Saint-Esprit. Ce soir, je suis là en tant que porte-parole de, je dirais, de structure, de définition, pour vous dire, celui qui n'est pas sorti, on n'a pas le droit de prétendre dedans. Et qui suis-je pour vous dire ce soir, toi tu n'es pas sorti, toi j'ai l'impression que tu es dedans. Loin de moi cette pensée-là.
Donc ça veut dire que dans les anciennes églises, que ce soit catholique, orthodoxe, réformée, il y a des vrais chrétiens. En tout cas, c'est en tout cas par vous qui pouvez dire qu'il n'y en a pas.
Oh non, je serais un terrible hérétique là si j'allais commencer de faire le tri moi.
Ouais, non,
Mais ce que je voulais ce soir provoquer parmi vous, c'est une prise de conscience pour que vous ayez le courage de nouveau de dire, il y en a qui sont dedans, il y en a qui ne sont pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le courage de le dire.